Radio Kapi.
Fini les vacances, députés et sénateurs reprennent le chemin du Palais du Peuple. C'est pour la session parlementaire de septembre qui est consacrée essentiellement à l'examen de la loi des finances 2022 et 2023 et de reddition des comptes 2021. Des détails en ouverture de ce journal avec notre permanent au Parlement, Michel Kifindangoy. À suivre aussi dans ce journal, c'est cette prise de position du député national Del Mambo en rapport avec le conflit ethnique entre les Teke et les Yaka dans le Maïndombe. Pour lui, le gouvernement doit impérativement rechercher les commanditaires intellectuels et aussi se lancer sur la voie de la réconciliation entre les deux communautés. À l'occasion de la célébration de la 15e journée internationale de la démocratie, nous recevons comme invité dans ce journal Abdelaziz Tioye, directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. C'est pour parler des avancées ratées en matière de démocratie en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, merci de vous réveiller avec Radio Okapi pour votre information. Bienvenue et bonjour à toutes et à tous. Rentrée parlementaire à l'Assemblée nationale et au Sénat, les députés et sénateurs reprennent ce jeudi le chemin du Palais du Peuple. Conformément à l'article 115 de la Constitution, la session de septembre est essentiellement consacrée à l'examen et adoption de la loi des finances 2023 ainsi que celle portant reddition des comptes de l'exercice 2021. C'est donc au cours de cette session que le Parlement évaluera la manière dont le pays a été géré en 2021 et programmera à travers le budget les grandes orientations des politiques publiques exécutables en 2023. Explication de Michel Kifindangoy.
La session budgétaire qui s'ouvre ces jours est d'un enjeu capital pour l'avenir de la RDC. Elle est consacrée à l'examen de la loi portant reddition des comptes de l'exercice 2021, dont le projet est déjà déposé à l'Assemblée nationale depuis juin dernier, ainsi qu'à l'examen du budget 2023 en cours d'élaboration au niveau du gouvernement. L'examen de la reddition des comptes et du rapport de la Cour des comptes permettront au Parlement d'analyser la manière dont le gouvernement a géré le pays en 2021 afin de tirer les conclusions de la mauvaise ou bonne gouvernance et activer la sanction. Des cas de détournement des fonds alloués aux secteurs sociaux et aux investissements sont généralement signalés à travers des dépassements budgétaires de certaines institutions. Le budget 2023 devra donc être voté en fonction des leçons tirées de la manière dont le gouvernement a exécuté le budget de l'année écoulée. Étant donné qu'aucune action gouvernementale ne peut être posée si elle n'a pas été programmée dans le budget, cette période est la seule occasion qui s'offre à la société civile et à la population en général de veiller à ce que l'injustice sociale entre les institutions et la population soit combattue à travers le vote d'un budget beaucoup plus équitable.
Célébration ce jeudi 15 septembre de la proclamation par les Nations Unies de la 15e journée internationale de la démocratie. Thème choisi pour cette année, planifier une action, renforcer la démocratie. Selon le directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, la démocratie est inséparable des droits et libertés fondamentaux. À l'horizon des élections de 2023, Abdelaziz Tioye pense que ce n'est pas démocratique de prendre sa femme ou sa fille et faire d'elle sa suppléante au Parlement ni d'organiser une élection qui ne tient pas compte de l'intérêt général ni de la vérité et affirmer qu'il s'agit là de la démocratie. On l'écoute au micro de Jeff Ngoy.
C'est contre les règles de jeu démocratique d'être titulaire et de prendre comme suppléant votre fille, votre femme, sous prétexte. Finalement, on se retrouve encore une fois dans autre chose que la démocratie. Parce que ça, c'est une représentation, c'est de quelque famille dans un système. C'est un dévoiement du suffrage universel, c'est dévoyer la volonté du souverain et du peuple que véritablement de venir présenter des situations d'agir de la sorte. Je pense que c'est un appel qu'il faut lancer à tout le monde. C'est de la volonté des hommes que dépend la qualité d'un système démocratique. Les meilleures institutions qu'on veut mettre dans un système démocratique n'auront de sens et n'auront d'utilité pour le peuple qu'à travers un peu les hommes qui les animent et les objectifs, la représentation que ce qui anime ces institutions se font de l'intérêt général.
Comme dit dans le sommaire de cette édition, Abdelaziz Tioye, directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, est l'invité de ce journal. Vous le suivrez sous peu. Fournir aux jeunes une plateforme pour dialoguer sur des possibilités de participation à la vie politique et publique en province du Sud Kivu, c'est l'objectif du dialogue intergénérationnel qui a réuni le mardi au quartier général de la MONUSCO à Bukavu les plus jeunes et leurs aînés, des dirigeants locaux et autres. C'est une initiative de la section affaires civiles de la MONUSCO. Rachel Kessé-Mangou nous en parle.
Si des recommandations politiques ont été faites pour contribuer à l'élaboration d'une feuille de route provinciale pour la jeunesse, la paix et la sécurité, les jeunes pensent surtout que ce cadre de concertation aidera à mieux les coacher. Josué Kayeye, coordonnateur du caucus des organisations des jeunes pour la paix et le développement durable, COGEPAD.
Les cadres des concertations intergénérationnelles veulent renforcer les coachings ou le mentoring pour la participation politique des jeunes, mais aussi c'est un cadre qui nous permet de renforcer les leaderships et la participation politique des jeunes.
Agnès Sadiki, femme leader politique, elle, pense qu'il y a encore effectivement du travail à faire avec les jeunes. Elle propose que ces derniers se fassent connaître par leur engagement.
On ne va pas mettre la corde au cou des jeunes pour venir se porter candidat. Il faut que les jeunes eux-mêmes manifestent leurs ambitions en état très actif, non seulement dans les partis politiques, mais aussi sur terrain. Quand ils seront très compétitifs sur terrain, les partis politiques vont les chercher.
Les jeunes souhaitent une démultiplication de ces genres d'activités pour les amener à davantage profiter de l'expérience de leurs aînés. Bukavu, Rachel Kessé, Radio Okapi.
Place maintenant cette nouvelle en rapport avec le conflit Tekeyaka dans le Maïndombe. Cette réaction du député national d'El Mambo, l'élu des Bagata dans le Kwilu, préoccupé par les conséquences alarmantes relatives au conflit interethnique meurtrier qui oppose les peuples Teke et Yaka dans le territoire de Kwamout, province du Maïndombe, demande que des mesures concrètes soient prises pour y mettre un terme. Il demande au gouvernement notamment de mettre la main sur les commanditaires intellectuels de ce conflit, d'organiser des patrouilles sécuritaires à Kwamout, principalement sur la route nationale numéro 17, et de procéder à la réconciliation des parties en conflit. Le point avec Irène Beaumont.
Le député national d'El Mambo, Eli de Bagata, estime que les conséquences liées à ces conflits entre les Teke et les Yaka sont tellement nombreuses et inquiétantes. Parmi ces conséquences, il cite entre autres la perte de plusieurs vies humaines, des dégâts matériels importants, le déplacement massif des populations vers les contrées voisines, les enfants déplacés non accompagnés, la non-scolarité de plusieurs enfants, la paralysie des activités agricoles et la crise économique dans les coins. Le lit du peuple parle également de la suspension du trafic sur la RN17. Il redoute de ces faits le blocage du débit dans les tout prochains jours du projet de travaux d'asphaltage de la dite route entre Mongata et Bandundu, caractérisé par l'insécurité. Préoccupé, Del Mambo propose quelques pistes de solutions aux autorités attitrées pour mettre fin à ces conflits.
La première solution, c'est de rechercher les gens qui tiennent l'aspect intellectuel de ces opérations. Attraper ceux-là, les sanctionner par rapport à la loi congolaise. L'État doit organiser des patrouilles militaires, sécuritaires. Il faut chercher à rétablir l'autorité de l'État en appelant les gens dans des tables de conciliation pour que la situation puisse reprendre.
Bandunduville, Irène Boma, Radio Okapi.
L'Ituri a besoin que la paix règne entre toutes les couches sociales et que tous les groupes armés signataires d'accords de paix et d'actes d'engagement pour la cessation des hostilités, notamment le FRPI et le FPIC, arrêtent les affrontements signalés ces derniers jours dans le territoire d'Irumu. Cet appel est de la communauté Bindi vivant à Kinshasa. Dans une déclaration hier mercredi à la presse, cette communauté, tout en encourageant le gouvernement à tout mettre en œuvre pour le retour de la paix dans cette partie du pays, demande à toutes les parties prenantes de privilégier le dialogue pour le développement de la province. On écoute un extrait de leur déclaration lu par le porte-parole Jeannot Malivo. Il est au micro de Jacques-Yves Molima.
Condamnons fermement les affrontements non justifiés par les groupes armés ayant accepté de déposer les armes et de souscrire au processus de paix. Condamnons l'érection de barrières irrégulières et illégales par les miliciens qui procèdent au contrôle sur la base identitaire. Demandons aux deux groupes armés de demeurer engagés dans le processus de paix et de ne pas céder aux actes de provocation et de manipulation d'où qu'ils viennent afin de privilégier l'intérêt de nos populations qui ne souhaitent que le retour définitif de la paix. Encourageons et soutenons l'esprit du dialogue entre les communautés pour consolider les acquis de la paix à territoire du Rumu en particulier et en province de l'Ituri en général. Appelons les notables, les intellectuels, les cadres de toutes les communautés à s'abstenir des discours qui alimentent et nourrissent des clivages ethniques opposant des communautés qui ont toujours vaincu ensemble dans la convivialité.
Retour dans le Sud Kivu, en plus bref, le représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU en charge des opérations dans l'est de la RDC a entamé hier mercredi une mission de 3 jours dans la province du Sud Kivu. Kassim Diane, qui est accompagné du commandant de la force de la MONUSCO, le lieutenant-général Marcos Afonso da Costa, est arrivé hier matin à Kavumu avant de poursuivre son voyage sur Baraka, où il a visité l'avant-midi la base des casques bleus de la MONUSCO dans la région avant de rencontrer les autorités locales. Le représentant spécial adjoint s'est ensuite rendu en fin d'après-midi à Uvira où il séjournera pendant 36 heures. Là, il rencontrera ce jeudi dans la matinée les responsables des Sokola 2 Sud, mais aussi le maire de la ville ainsi que les représentants de la société civile. De retour à Bukavu, Kassim Diane va honorer d'autres engagements avec les autorités et certaines composantes de la société civile. Troisième reportage de la série Yangambi dans la province de la Tchopo, nous vous proposons aujourd'hui de découvrir le laboratoire des bois. Lancé depuis 2018, ce laboratoire permet de réaliser de la recherche sur l'anatomie des bois afin de mieux comprendre le rôle des forêts dans l'adaptation et l'atténuation du changement climatique. Paul Matendo, qui revient de Yangambi, nous propose ce reportage.
Outre la recherche sur l'anatomie, ce laboratoire fait également de la dendrologie, qui signifie tout simplement étude des cernes de croissance des arbres. Ce laboratoire a comme mérite d'estimer les stocks du gaz carbonique séquestrés par les forêts, comme le dit son directeur général Nestor Luamboa.
Les arbres font la photosynthèse et captent les carbones atmosphériques et ils stockent ça dans les bois. En faisant les études de bois, nous arrivons à estimer les stocks de carbone que les forêts sont en train de séquestrer.
À ce jour, les résultats de ces recherches sont publiés dans les revues scientifiques, mais ils seront mis à la disposition de l'administration forestière.
Les résultats de nos études sont publiés sous forme des articles scientifiques. Mais nous devons maintenant fournir beaucoup d'efforts pour arriver à mettre ça à la disposition de l'administration forestière de notre pays.
Financé par l'Union européenne et le Centre international de recherche forestière, CIFOR, ce laboratoire sert aussi d'un site de recherche pour les étudiants de l'IFA Yangambi, nous a confié Nestor Luamboa.
Le souffle des ancêtres, c'est le thème de la deuxième édition du Festival d'art contemporain Congo Biennale qui ouvrira ses portes du 16 septembre au 23 octobre prochain à Kinshasa. À cette occasion, un point de presse a été organisé hier mercredi au centre culturel Kin Art Studio à Kinshasa. Cette initiative de l'artiste congolais Vichua Milambwe a pour objectif de présenter et mettre en avant les jeunes artistes prometteurs et confirmés de la RDC et de la diaspora. Kelly Yoka nous en dit plus dans ce reportage.
45 artistes de plusieurs disciplines de la RDC et d'ailleurs rivaliseront de talent à Kinshasa lors de la deuxième édition du Festival d'art contemporain Congo Biennale. Vichua Milambwe, son initiateur, met l'accent sur la particularité de cette deuxième édition.
La Biennale a organisé des ateliers qui a beaucoup aidé les jeunes artistes congolais. C'est une forme de transmission de savoir. Cette particularité, en même temps, a eu beaucoup de partenaires extérieurs qui viennent pour faire des expositions dans les special projects.
Une première pour ces artistes du Bénin et du Mali qui ont hâte de rencontrer le public congolais.
C'est une occasion pour moi de montrer mon travail à un large public. Et puis de faire des rencontres à la fois.
Et je prépare une surprise, je ne sais pas si j'arriverai à la faire, mais l'idée c'est d'évoquer le fleuve Congo qui permettait de transporter, d'échanger, etc., mais qui est maintenant devenu une frontière qui coupe en deux le Congo.
Notons que 4 sites culturels sont retenus pour cette deuxième édition, à savoir le Musée National, l'Académie des Beaux-Arts, Kin Art Studio, ainsi que le rond-point Luputa de la commune de Bandalungwa.
Cette autre nouvelle avant de passer à la page internationale. 60 journalistes de Kinshasa suivent depuis mercredi 14 septembre un séminaire d'information des 3 jours sur les Jeux de la Francophonie, dont la 9e édition est programmée en RDC du 28 juillet au 6 août 2023. Ce séminaire est organisé par le Comité national des Jeux de la Francophonie pour expliquer les enjeux liés à l'organisation de ces activités sur le plan diplomatique, économique, culturel, sportif, touristique et susciter l'intérêt de la population en rapport avec ce grand rendez-vous. Vanessa Kongolo pour le reportage.
Expliquer aux journalistes les différentes facettes ainsi que les enjeux liés à l'organisation des 9e Jeux de la Francophonie, c'est l'objet de ce séminaire. Maumba Mabiala, ancien directeur de l'éducation de l'OIF et formateur, explique.
pendant environ 2 semaines, Kinshasa sera la capitale de l'espace francophone. Pour ceux qui ont une vision de grandeur pour notre pays, c'est une opportunité de mettre la RDC en avant. En tant que journaliste, c'est votre rôle de montrer à la population congolaise la chance que notre pays a d'accueillir cet événement.
Le directeur du Comité national des Jeux, Isidore Nkwandja, pense que c'est le moment indiqué pour que les médias vendent une bonne image du pays.
Alors, on a pensé qu'il était vraiment important que nous puissions vous donner quelques informations que vous allez exploiter. Et donc ça, c'est une occasion que nous avons, nous les Congolais, et particulièrement vous les gens de médias, d'informer et d'informer correctement. Nous devons être des patriotes. Un patriote, c'est quelqu'un qui aime son pays et qui parle du bien de son pays.
Ce séminaire se poursuit ce jeudi. Il est prévu une descente sur les sites qui abriteront les Jeux.
Actualité internationale.
Les cas de variole du singe ayant diminué en Europe et dans certaines régions d'Amérique du Nord, de nombreux scientifiques estiment qu'il est temps de donner la priorité à l'éradication du virus en Afrique. En juillet, l'Agence de santé des Nations Unies a désigné la variole du singe comme une urgence mondiale et a lancé un appel au monde entier pour qu'il soutienne les pays africains afin que l'inégalité catastrophique en matière de vaccins qui a marqué l'épidémie de COVID-19 ne se répète. Mais le pic d'attention mondiale a peu d'impact sur le continent. Aucun pays riche n'a partagé des vaccins ou des traitements avec l'Afrique et certains experts craignent que l'intérêt ne s'évapore bientôt.
L'invité.
Radio Okapi reçoit Abdulaziz Thioye, directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme et CNUDH. À l'occasion de la célébration de la 15e journée internationale de la démocratie ce jeudi 15 septembre, le directeur du BCNUDH dresse notamment un bilan mitigé de la démocratie congolaise avec quelques avancées certes. Il parle également des actions que mène le Bureau pour la promotion de la démocratie en RDC. Abdulaziz Thioye s'entretient avec Jeff Ngoy.
Bonjour Abdulaziz Thioye.
Bonjour.
À l'occasion de la célébration de la 15e année de la Déclaration universelle proclamant la démocratie dans le monde par les Nations Unies, à ce jour, peut-on dire qu'il y a eu des avancées positives, des avancées considérables que le BCNUDH peut déceler concernant notre système démocratique?
Des avancées, oui. Je pense que si nous en sommes aujourd'hui à discuter ouvertement du respect ou non des droits et libertés, c'est parce qu'évidemment, il y a une liberté d'expression. Donc c'est ça aussi une caractéristique de la démocratie, la liberté de la presse. Depuis 1998, je pense, après les élections qui ont amené l'alternance à la tête de ce pays, il y a eu une ouverture de l'espace politique. Nous avons vu la possibilité de la société civile pour les partis politiques de définitivement pouvoir manifester librement. Il y a eu par la suite des velléités de restrictions qui ont refait surface et qui ont fait à un moment donné craindre effectivement d'un retour en arrière. Les craintes sont toujours là. Mais évidemment, on n'est pas à la situation que nous avons connue il y a quelques années, notamment entre 2016 et 2017, où de façon très claire, il y a eu une répression sanglante des manifestations qui étaient organisées sur la voie publique. Pour l'heure, sans trop décerner un satisfait, on peut dire qu'il y a un bilan plus ou moins mitigé des avancées qui méritent d'être consolidées et pour d'autres sur des aspects sur lesquels il faut nécessairement faire des progrès. Et dans cela, il y a des attentes assez fortes.
Planifier une action et renforcer la démocratie, c'est le thème de cette 15e année. Quelles sont les actions que le BCNUDH planifie concernant la promotion de la démocratie?
Nous travaillons beaucoup. Nous sommes dans un rôle de comme bureau du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, qui, comme vous le savez, est l'entité des Nations Unies en charge de tout ce qui est coopération technique pour accompagner les États à être plus ou moins en conformité avec leurs engagements, vous ratifier une convention. Nous devons vous aider techniquement à mettre en œuvre les dispositions de la convention. Donc, pas seulement les États. Il nous faut travailler avec le Parlement. Comme vous le savez, nous travaillons beaucoup avec les autorités qui sont les détenteurs d'obligations. C'est-à-dire, quand l'État ratifie une convention et décide d'accorder les bénéfices des droits reconnus dans la convention à ses citoyens, c'est l'État qui a l'obligation de réaliser cela. Donc, nous sommes du côté de la redevabilité, c'est-à-dire aider l'État à véritablement être à niveau dans la satisfaction de ses obligations et leur mise en œuvre. Nous soutenons également le côté des bénéficiaires, ceux qui détiennent des droits, citoyens, pas les citoyens individuellement, mais à travers les structures qui les représentent. la société civile, dont de renforcer les capacités, de manière à les accompagner à pouvoir eux-mêmes développer un plaidoyer, un dialogue qui leur permette de s'engager avec les autorités, ce qu'on appelle augmenter les capacités de réclamation.
La 15e année de la proclamation universelle de la démocratie par les Nations Unies coïncide avec la crise de la COVID-19 qui a presque entraîné des défis à l'échelle mondiale, des défis majeurs sur le plan politique, sur le plan social et juridique. Comment peut-on renforcer la résilience démocratique face aux prochaines crises?
Je pense que la COVID-19 nous a pris deux bonnes années. On ne se rend pas compte que beaucoup de choses se sont passées. La COVID-19 a favorisé quelque peu une crise du multilatéralisme. Certains États se sont refermés sur eux-mêmes. Les disparités et les inégalités sociales et économiques se sont accentuées, ce qui est aussi un élément non négligeable. Et la COVID-19 aussi a été une occasion pour certains pays, certains régimes, de restreindre davantage les droits et libertés. On l'a vu, et d'ailleurs, la haute commissaire a beaucoup insisté là-dessus pour rappeler à certains États la nécessité de s'abstenir dans le contexte, sous prétexte de lutter contre la pandémie, de restreindre les droits et libertés. C'est ce qu'on a vu dans beaucoup de pays où les gens étaient confinés, ne pouvaient pas sortir. Les manifestations étaient interdites, certaines activités, beaucoup d'atteintes à la vie privée sous prétexte de confinement. C'est très très compliqué et également une explosion des violences domestiques. Toutes les leçons apprises de la COVID-19, je pense, doivent servir pour faire différemment. Et ça nous ramène encore une fois sur l'interdépendance. Un système démocratique est un système aussi qui crée les conditions pour que ces citoyens puissent jouir de tous leurs droits, civils et politiques, mais droits économiques, sociaux et culturels. Et en cela, pour le faire, il faut créer un environnement qui permette une expression libre et démocratique.
Abdulaziz Choy, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Mesdames et messieurs, voilà qui met un terme à cette édition de journal préparée par Peliki Pelamondo. Polydor Basunga assurait la prise des soins et la mise en onde, et Billy Ivan Lutumba vous l'a présenté. Au nom de toute cette équipe, je vous dis sincèrement merci.